Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Épidémie de coronavirus, quelques 400 scientifiques du monde entier ont entamé ce mardi à Genève en Suisse une rencontre visant à intensifier les efforts pour combattre l'épidémie de pneumonie virale, qualifiée de très grave menace pour le monde par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les participants vont passer en revue durant deux jours les moyens de combattre le nouveau coronavirus en se penchant notamment sur sa transmission et sur les traitements possibles. Ils partageront aussi leurs connaissances sur les sources potentielles de la maladie qui pourrait trouver son origine chez des chauves-souris, puis avoir migré vers d'autres animaux avant d'arriver à l'homme. Au total, plus de 42 200 personnes ont été contaminées en Chine continentale et au moins 1016 d'entre elles ont perdu la vie. L'écrasante majorité dans la province du Hubei, berceau de l'épidémie, dont le chef-lieu est Wuhan. 56 millions d'habitants sont interdits de déplacement dans cette région. C'est le cas de Cheikh Mbake Amar, étudiant en doctorat à l'université de Wuhan. Il fait partie des étudiants sénégalais qui voulaient être rapatriés et dont les parents avaient réclamé le retour suite aux déclarations du président du Sénégal, Macky Sall, qui avait affirmé que son pays n'avait pas les moyens de ramener les étudiants chez eux. Cela fait 18 jours que Cheikh Mbake Amar est en quarantaine dans sa chambre d'étudiant à Wuhan. On l'écoute au micro de Claire Morin-Gibourg.
Effectivement, nous sommes en quarantaine à Wuhan et c'est depuis le 23 janvier à partir de 10h00. Moi, je l'ai su la nuit à travers des informations parce que moi-même, le 23, j'avais acheté un billet pour voyager, mais malheureusement, le matin, quand je suis arrivé à la gare, ils m'ont dit que c'est déjà effectif la quarantaine, vous ne pouvez pas sortir. Ici, bon, on s'organise dans mon université. Il y a un code que tu peux scanner et il y a un supermarché qui fait une livraison deux fois dans la semaine.
Vous êtes également sportif, hein? Vous êtes ceinture noire et instructeur de kung-fu. Du coup, vous avez dû arrêter tous vos entraînements?
Bon, j'ai arrêté les entraînements à l'extérieur, mais j'ai aménagé dans ma chambre un petit coin pour faire mes entraînements.
Le président Macky Sall a déclaré que le Sénégal n'avait pas les moyens de rapatrier les étudiants il y a quelques jours, ce qui a déclenché la colère de parents sénégalais. Quelle a été la réaction de vos parents à vous?
D'abord, sur le discours du président, moi, d'après ce que j'ai écouté, moi, je me dis que le président n'a pas eu la bonne information, parce que disant qu'il n'y a aucun pays africain qui ne l'a pas encore fait, alors qu'on a vu le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie qui l'ont fait, puisque on voit chaque jour d'autres pays qui rentrent, même hier, c'est le Vietnam qui vient de rentrer, donc on pense que le rapatriement, c'est possible jusqu'à la nouvelle heure. Et sur nos parents, normalement, comme tout parent qui a son enfant dans une ville où tu entends chaque jour qu'il y a une maladie, normalement, nos parents peuvent que nous rentrions.
Mais vos parents, à vous, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils sont déjà dans un collectif et ils essaient de rencontrer l'autorité, ils essaient de rencontrer le président pour lui demander de vraiment organiser notre rapatriement au pays.
Est-ce que vous avez envie d'être rapatrié? Est-ce que les autres étudiants sénégalais également expriment le désir d'être rapatriés?
Oui, pour juste vous dire que dès le début, c'est nous qui avons émis le besoin d'être rapatrié au pays. À ce moment-là, même nos parents n'étaient pas impliqués dans le combat. C'est avec les informations et la presse là, qui a toutes les informations que nos parents maintenant se sont mis dans la bataille et nous ont appuyé sur notre mot d'ordre de rapatriement.
Et si vous êtes porteur du virus, vous êtes confiant que vous pourrez être soigné correctement au Sénégal?
Pour le moment, nous sommes tous bien portants. Nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas porteurs de maladies. Et s'il arrive le malheur aussi, nous sommes vraiment confiants du système sanitaire de notre pays qui a eu à combattre vraiment l'Ebola, qui était une crise beaucoup plus profonde que cela.
Cheikh Mbake Amar, étudiant doctorat sénégalais à l'Université normale de la Chine centrale à Wuhan, à l'université. Afrique maintenant, fin du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. L'organisation panafricaine, dont la réunion annuelle s'est achevée dans la nuit de lundi à mardi, s'est engagée à être plus active et plus efficace dans la médiation des conflits qui déchirent le continent africain, notamment la guerre civile en Libye, dossier dont elle a été jusqu'à présent largement exclue. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Après plusieurs sommets consacrés au développement économique et aux réformes de l'Union africaine, les débats se sont concentrés lors de ce sommet annuel dimanche et lundi sur la multiplication des conflits en Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a pris pour un an la tête de l'Union africaine dimanche, a d'ailleurs annoncé lors des discussions la tenue d'un sommet spécial en main en Afrique du Sud, consacré exclusivement à cette thématique. Reconnaissant l'échec de l'engagement pris en 2013 de mettre fin à toutes les guerres en Afrique, du Sahel à la Somalie en passant par l'est de la République démocratique du Congo, les dirigeants africains ont principalement parlé de deux conflits lors de ces deux jours, la Libye et le Soudan du Sud. En Libye, l'ONU, principal médiateur, a besoin de nous maintenant, a assuré lundi Ismaël Shergi, commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité. C'est un problème africain, nous avons une sensibilité que peut-être d'autres n'ont pas, a-t-il ajouté, rappelant le lien entre l'instabilité en Libye et la montée en puissance des groupes djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina ces dernières années. Autre problématique épineuse pour l'Afrique. L'Union africaine a d'ailleurs pris plusieurs initiatives sur la Libye, dont celle d'un forum de réconciliation que l'Algérie s'est proposé d'accueillir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconnu pour la première fois lundi l'existence d'une démarche d'approche des groupes djihadistes, la justifiant par la nécessité d'explorer les voies d'une sortie de crise après 8 années de guerre sans issue rapide en vue. Le chef de l'État malien rompt ainsi avec le rejet jusqu'alors affirmé de tout dialogue avec ceux que le gouvernement malien appelle des terroristes, à commencer par le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, qui sévit depuis 2015 dans le centre du pays, et le chef de guerre Touareg Iyad Ag Ali. Afrique centrale, République démocratique du Congo, les magistrats ont entamé depuis lundi un mouvement de grève illimité. Ils exigent un salaire décent et de meilleures conditions de travail. Le point avec Eddy Issango.
Aucune audience n'a eu lieu depuis hier dans les tribunaux du pays. À Kinshasa, les magistrats ont manifesté devant l'esplanade du palais de la justice. Ils ont crié leur colère. Ils exigent que le gouvernement rencontre les propositions du Conseil supérieur de la magistrature sur des nouveaux salaires et avantages. Le respect du protocole signé avec la présidence en 2011 mettrait les magistrats à l'abri de la précarité et donc de la corruption, tant décrié, a expliqué à VOA Afrique Edmond Issofa, président du CINAMAC, l'un des syndicats des magistrats. La justice est souvent accusée d'être corrompue, lente et de rendre des jugements à la tête du client. En 2018, l'ancien président Joseph Kabila avait révoqué 250 magistrats pour corruption. Hier, le ministre de la Justice a entamé des discussions avec des représentants des juges. Le président Félix Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, a nommé vendredi des hauts magistrats à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation et au Conseil d'État.
Actualité américaine maintenant, ici aux États-Unis, deuxième vote des primaires démocrates ce mardi. Les électeurs se prononcent aujourd'hui dans le New Hampshire. Malgré sa petite taille, cet État du nord-est du pays pèse dans la course à la présidentielle. Abdourahman Dia.
Les électeurs du New Hampshire votent ce mardi, une semaine après le fiasco dans l'Iowa. Ce petit État, avec 1,3 million d'habitants, est devenu tous les 4 ans un passage obligé pour les candidats. Si les assemblées électorales ou caucus de l'Iowa sonnent le départ, le vote du New Hampshire dégage généralement les tendances et permet déjà d'éliminer les plus faibles. Ces résultats sont traditionnellement suivis de très près par le reste du pays. 11 candidats sont en lice pour l'investiture démocrate. Dans les sondages, Bernie Sanders, sénateur du Vermont, et Pete Buttigieg, ancien maire du South Bend en Indiana, sont donnés favoris. L'ancien vice-président Joe Biden est au coude à coude avec les sénatrices Elizabeth Warren et Amy Klobuchar pour la 3e place. De nombreux électeurs sont encore indécis, souligne Bill Gardner, chargé de l'organisation de la primaire, ajoutant que tout peut arriver ici. Les candidats, conscients de l'enjeu, ont sillonné le terrain et dépensé des millions de dollars pour leur campagne.
Et pour terminer, au Kenya, funérailles nationales de l'ancien président Daniel Arap Moi, décédé le 4 février à l'âge de 95 ans. Des milliers de Kenyans ont rendu aujourd'hui un hommage aux disparus dans un stade du centre-ville de Nairobi en présence du président Uhuru Uhuru Kenyatta. La dépouille de l'ex-chef d'État avait été exposée auparavant au public pendant 3 jours au Parlement. Parmi les chefs d'État africains présents à la cérémonie, le président rwandais Paul Kagame, l'ougandais Yoweri Museveni, le sud-soudanais Salva Kiir, le djiboutien Ismaël Omar Guelleh et l'éthiopienne Salewok Zewde.
Pitié, toi, mon amour.